Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une cinquième émission sur Radio Présence pour suivre l'école d'oraison avec les carmes du couvent de Toulouse. Nous avons vu la semaine dernière quelles étaient les difficultés de l'oraison, la fidélité, les distractions et la sécheresse. Et nous mettons aujourd'hui l'accent sur les étapes de la vie spirituelle. Et pour cette cinquième émission sur l'école d'oraison, nous sommes avec Frère Armand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes carme au couvent de Toulouse. Alors, la vie spirituelle n'est pas linéaire, elle est aussi propre à chacun, même si des grandes lignes sont communes à l'avancement spirituel de chacun. Saint Thomas considère qu'il y a des degrés dans la charité. Ils correspondent aux différents âges de la vie spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette graduation ?
Alors, si l'on fait une comparaison, on pourrait dire que saint Thomas la reprend. Hein, l'enfant est celui qui n'a pas la parole et qui n'a pas non plus la responsabilité de ses actes, d'une certaine manière, et en plus qui n'a pas la maîtrise, on pourrait dire, de ses affections. Ça fait beaucoup. De son côté, l'adolescent, il a la parole, il a une maîtrise assez moyenne de ses affections et il n'a toujours pas vraiment la responsabilité. Et normalement, l'adulte a une parole articulée, pas seulement une parole, mais articulée. Il a une certaine maîtrise de ses affections et il a normalement une certaine acquisition de la responsabilité de ses actes. Ça, c'est au plan moral. Alors, on voit bien que dans cette analogie, il y a une limite. On voit bien qu'il y a des stades qui sont assez distinctes. Mais il y a une limite, c'est que, entre guillemets, normalement, l'adulte ne redevient pas enfant. Hein, la parole articulée reste articulée.
Oui, il n'y a pas de retour en arrière.
Pas de retour en
sauf
arrière.
Sauf accident.
Sauf, bon, voilà. Après, au plan psychologique, on parlera de régression, voilà. Des choses comme ça. Alors que dans la vie spirituelle, vous voyez, ce n'est pas la personne qui acquiert, on pourrait dire, des capacités.
Des compétences. Ouais,
c'est l'âme ça. Qui se dispose à recevoir un don de Dieu toujours plus grand. Et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, on peut dire, l'acteur de la croissance de la vie spirituelle, c'est la vie même de Dieu. C'est donc, on pourrait dire, même l'humanité du Christ qui, dans mon humanité, prend chair. Et prend chair de manière unique. Parce que moi, je vais accueillir l'humanité du Christ, pas comme vous. Hein. Pas seulement parce que je suis un homme et vous êtes une femme, mais parce que nous sommes uniques. Et donc la question, c'est de quelle manière dans mon cœur je vais me disposer à accueillir ce qu'on appelle l'émotion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la manière par laquelle dans cet Esprit Saint, le Christ va réellement devenir le maître, l'acteur, le roi de mon cœur. Et donc clairement, du coup, on peut dire l'analogie des étapes de la vie physique, affective, morale, s'applique. Parce qu'on parlera de commençant dans la vie spirituelle, de progressant et de parfait. Alors la perfection, elle n'est pas morale, ici, elle est vraiment spirituelle.
Et alors comment peut-on comprendre ces trois stades, frère Armand ?
Alors il y a le stade des commençants, principalement, si on devait le définir, c'est celui qui passe, on pourrait dire, d'une religion un peu extérieure, un peu rituelle, un peu culturelle, à une conversion intérieure où tout à coup, Dieu est un mystère vivant, une parole qui lui parle au cœur, une relation personnelle par le Christ, au point de poser chaque jour des actes, des choix qui vont structurer son quotidien en fonction de cette personne. C'est-à-dire si moi je connais quelqu'un, je ne vais pas agir de la même manière que si je ne la connais pas. Voilà, donc le premier élément, on peut dire, c'est qu'on va passer de ce que saint Augustin appelle une forme de déchirement intérieur entre ce que j'aimerais faire et ce que je ne fais jamais, hein, qui est le drame un peu du péché originel, à une capacité à laisser Dieu être un acteur, une personne vivante dans ma vie, au point de l'accueillir un peu dans ma maison.
Et de lui laisser les rênes alors ?
Alors non, parce que la conversion, non. C'est l'accueil de Dieu dans ma vie, mais j'ai encore les rênes.
Ah oui, c'est ça.
J'ai encore les rênes.
Mais justement, puisque vous parlez de conversion, parce qu'on sait bien, saint Augustin, il a quand même vécu une conversion radicale. Tous les chrétiens n'ont pas ce type de conversion.
Alors, saint Augustin vit une expérience très forte, oui. En gros, où il fait l'expérience, et sainte Thérèse d'Avila la prend à son compte, que non seulement Dieu est vivant, mais qu'il est vivant en lui. Hein, il était au fond de mon cœur et je ne l'en percevais pas. Seulement, et c'est là qu'il faut être aujourd'hui très très précis, c'est que il est vivant en moi comme une réalité intime, mais pas uniquement comme une réalité subjective. Il est vivant en moi, le Seigneur, comme une réalité intime, mais au cœur d'un mystère qui s'appelle le mystère de la communion ecclésiale. Et là-dessus, il faut être très précis, parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance à bien... Maintenant, on est passé, on peut dire, à l'époque de Saint-Augustin, l'intériorisation, l'intériorité n'existait pas. Et puis avec les modernes, avec le développement de la subjectivité, c'est devenu, on peut dire, le sujet majeur. Et aujourd'hui, du coup, on aurait tendance à dire, il est vivant en moi comme une réalité intime, et du coup, je me regarde et Dieu est là. Non, tu regardes ton nombril.
Oui, ça coupe de l'Église, la dimension ecclésiale.
Et donc, justement. La dimension ecclésiale, c'est l'intériorité vécue dans une communion.
C'est pas mon petit Dieu pour moi toute seule.
Voilà, c'est pas mon petit Dieu pour moi tout seul, c'est bien le cœur de ma vie, mais dans une communion qui vérifie la réalité objective de cette charité. Donc ça, c'est pour les commençants, c'est-à-dire qu'ils font l'expérience que Dieu n'est pas à l'extérieur d'eux, c'est pas juste une règle, c'est pas juste des réalités morales, mais c'est bien des réalités morales, mais vivantes, comme vibrantes dans ma vie. Ça, c'est juste pour le commençant.
Et alors, après, une fois que le commençant a passé cette étape, il devient progressant. Qu'est-ce qu'il caractérise?
Il devient progressant. Alors, ce n'est pas des étapes comme dans Blablacar, attention, hein, où on devient ambassadeur, super driver. Ce n'est pas ça du tout. C'est que ça se... On peut dire,
en fait, c'est pour eux.
Je reviens, c'est pour eux. Et puis, surtout, je reviens à mon image de base. C'est vraiment la disposition de l'âme à accueillir l'émotion de Dieu de manière toujours plus grande. Donc c'est évidemment parfois c'est des expériences, donc parfois il y a des moments où je suis très disposé, puis il y a des moments où je suis moins disposé. D'accord, c'est important.
Ça mais dépend de fait, des étapes de la vie, ça dépend même des jours.
Enfin, voilà, et en même temps, il y a quand même des passages.
Il y a des degrés.
Il y a quand même des passages, mais c'est comme vous dites, c'est fluide. C'est pas tangible. D'un autre côté, alors ce qui caractérise, on peut dire, le progressant, c'est que il va pas seulement accueillir Dieu comme était vivante dans sa vie au cœur du mystère de l'Église, il va structurer sa vie avec des vertus qui vont être ordonnées au point que sa vie morale va être articulée. Vous voyez, au point qu'on pourra dire que sa vie est unifiée. C'est pas uniquement des actes ponctuels. Tous les actes de sa journée, de ses mois, de ses années ont un sens, prennent une forme, au point qu'on pourrait dire qu'effectivement, c'est bien Dieu qui agit à travers lui. Alors, il faut bien savoir que les vertus, on dit techniquement, dans le langage du jargon, elles sont architectoniques. Ça veut dire qu'elles s'articulent entre elles au point que quand je pose un acte de foi, immédiatement, je me bascule dans l'espérance. Immédiatement, du coup, mon jugement s'affine au point d'être plus juste. Immédiatement, je suis capable de courage, ce qui est la vertu de force, etc. Donc les vertus, vous voyez, elles s'articulent entre elles. À l'inverse, la non-pratique des vertus, qui s'appelle le vice, font que mon âme va grandir dans le désordre et dans la non-articulation, au point que je vais avoir... Ma vie va être...
Elle va être éclatée.
Éclatée, c'est le terme. Éclatée dans des pôles, au point que on pourra... Beaucoup de gens nous disent « je suis totalement tiraillé ». Mais oui, tu es dans... Mon pauvre, tu es dans le vice. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de vicieux sur notre terre, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a plus que des gens addicts. Les gens sont tous addicts, ce qui est plus noble, ça fait moins, le jugement est moins négatif, mais c'est juste la même chose.
Et est-ce qu'on peut dire que dans cette phase, si on peut dire de cette étape de progressant, c'est vraiment la persévérance qui est à l'œuvre?
Oui, parce que les vertus vont structurer l'âme comme un peu des murs qui se construisent. Et le propre de la vertu, on appelle ça un habitus, c'est-à-dire que ça rend facile le fait de poser un acte bon au point qu'il devient plaisant. Vous voyez, le plaisir étant, comme on appelle ça techniquement, la couronne de l'acte bon, le couronnement de l'acte bon. Donc, de fait, le vertueux pose des actes bons avec une certaine facilité qui est déconcertante. Et donc, de fait, de ce fait, les épreuves liées à la prière, en particulier le fait que Dieu, il est vivant, donc il y a des fois où il manifeste sa présence de manière très claire, explicite, voire sensible, puis il y a des fois où il ne manifeste pas sa présence de la même manière, et donc cela peut créer une certaine souffrance. Dans ce cas-là, effectivement, le priant, l'orant, va être capable de rester devant Dieu parce qu'il est là pour lui et pas pour le retour qu'il reçoit de Dieu. Donc la persévérance, effectivement, c'est le fruit de la structuration d'une vie vertueuse, parce que il y a des habitus, pas des habitudes, hein, parce que les habitudes n'impliquent pas l'intelligence et la volonté, tandis que les habitus, c'est vraiment la volonté et l'intelligence qui régulièrement, on pourrait dire, sont articulées par le fait que la lumière de Dieu vient les irriguer, vient les ordonner, les orienter. C'est très important, ça.
Oui. Alors, le troisième stade, la troisième étape de cette vie spirituelle, frère Armand, c'est celui du parfait. Alors, c'est drôle parce que c'est un mot quand même étonnant, parce que seul Dieu est parfait.
Alors, surtout, on aurait tendance à se dire qu'on va devenir des top modèles. Hein.
Oui.
Hein, on va devenir des top modèles de la sainteté. Donc, et après, en plus, ce qui est aussi déforme, c'est le fait qu'on a beaucoup d'hagiographie. Donc, on relie des saintes, des vies saintes en se demandant si vraiment ils ont été comme nous. Hein, en se demandant même s'ils ont eu des combats, hein, parfois, tellement
ils
ont
été comme des êtres à part.
Parfaits. Oui, alors c'est tout à fait excessif. Quoi. Alors, cette perfection, c'est juste inverse. C'est-à-dire que cette perfection, c'est l'accueil de la grâce, c'est-à-dire de la vie de Dieu, au cœur des pauvretés les plus structurelles de ma vie. Et nous avons tous en nous, dans notre cœur, une faille centrale. Alors, en général, ma faille, c'est celle que je ne veux pas. Et donc, la faille de mon voisin, je la trouve plus sympa. Hein, donc, j'aimerais bien prendre sa faille. Mais quand j'accueille ma propre faille, je suis délivré en particulier d'une réalité qui est assez embêtante pour la vie spirituelle, qui est le fait de se comparer. Parce que, entre guillemets,
ça, c'est délétère, ça.
Si vous savez, c'est prends ma place, mais dans ce cas-là, prends mon handicap. Ben, c'est pareil, c'est prends ma place, dans ce cas-là, prends ma faille. Et bon, c'est bon, je ne prends pas ta faille. Donc, on pourra dire que la faille, qui n'est pas une réalité uniquement psychologique, qui est une réalité du fait qu'on
puisse... Il y a nos péchés originels aussi.
Et puis, il y a au fait que nous sommes très bêtement des créatures mortelles, limitées, donc dépendantes. Vous voyez, nous ne sommes pas tout-puissants, indépendants, autonomes, absolus. Nous sommes dans une certaine dépendance. Mmh. Or, cette faille, elle est convertie en abandon, communion, oblation. C'est vraiment la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que Marie se reçoit à chaque instant de Dieu dans son Fils. Et donc, le parfait, c'est celui qui vit, on pourrait dire, une dynamique perpétuelle d'engendrement de l'Esprit de Dieu en lui. Et donc, il ne se dit pas, vous voyez, il ne cherche pas à faire des réserves. Hein, c'est vraiment l'image des Hébreux qui ont
la manne
pour aujourd'hui.
Oui,
manne où, qu'est-ce que c'est? Ils l'ont pour aujourd'hui. Certains voulaient faire des réserves, mais cette nourriture devint mauvaise. Donc le pauvre, le parfait, est celui qui, on pourrait dire, vit les mains ouvertes. Le don de Dieu qui vient à lui, il ne sait pas comment, il ne sait pas quand,
mais
il l'espère, il l'attend. Dieu vient sous un mode toujours inattendu, ce qui fait que la vie spirituelle devient, pour le coup, extrêmement belle, extrêmement intéressante. Mais il a une pauvreté en lui qui devient sa force.
Oui, c'est ça.
Qui devient sa force. Et donc, vous voyez, le parfait, ce n'est pas du tout le top modèle, c'est au contraire celui qui assume pleinement sa pauvreté.
On a bien compris les trois stades de la vie spirituelle, hein, les débutants, les progressants et les parfaits. Et vous nous avez dit, frère Armand, que ces étapes ne sont pas tranchées, elles sont fluides, elles sont poreuses, elles évoluent dans l'espace et le temps. Et vous avez déjà abordé cette question de la manne, le temps où Dieu agit pour aujourd'hui.
Oui, alors on touche à quelque chose d'extrêmement important, c'est que la vie de prière s'inscrit dans une communion ecclésiale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le aujourd'hui se passe en particulier dans l'acte liturgique. Hein, on chante avant Noël, hodier, etc. plusieurs fois. Bon, voilà. Chaque fois que nous célébrons une fête, une solennité, nous célébrons l'aujourd'hui de Dieu, de cet aspect du mystère de Dieu. Et donc, une vie de prière est inévitablement lié à une intensité liturgique. C'est très important, cela. Donc, l'idée d'avoir une vie de prière chez moi, sans l'Église, sans mes frères et sœurs en Église, c'est une simple illusion. Voilà. Je peux vivre des réalités affectives, mais ça reste autour de moi-même, quoi. Tandis que là, voilà, le aujourd'hui, il est vécu dans l'acte liturgique de chaque jour. Hein. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Hein. On chante tous les matins en ce moment pour le carême. Hein. Donc, c'est vraiment essentiel. Et or, cet aujourd'hui nous rappelle quelque chose de plus profond encore. C'est que la pauvreté dont je viens de parler des parfaits, c'est l'enfance spirituelle. L'enfant, psychologiquement, n'est pas capable de se projeter à deux semaines,
oui,
à
il
mois.
Est dans l'instant présent.
Il est dans l'instant présent. C'est psychologique.
Mmh.
Et d'ailleurs, inversement, demandez-lui ce qu'il a fait il y a une semaine, il a oublié. Il est dans l'instant présent, outre qu'il aime jouer, il est dans l'instant présent. Alors, c'est une réalité psychologique qui
mais
est...
Mais c'est une attitude à garder, justement.
Alors, qui est induit pour l'enfant un champ de vision, un champ de conscience extrêmement étroit, ce qui n'est quand même pas souhaitable pour un chrétien adulte. Mais vous voyez, là où il faut garder quelque chose de l'enfant, c'est qu'il ne vit pas dans la projection de demain, ni dans l'amertume d'hier. Il vit dans la plénitude de l'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de, vraiment de parfait. C'est-à-dire que le parfait, or, cet aujourd'hui est vécu selon l'aujourd'hui de l'Église, pas l'aujourd'hui que je me donne à moi-même.
Mmh. Et c'est bien ce qu'avait compris Sainte Thérèse. Alors, la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle dit « rien que pour aujourd'hui ».
Rien que pour aujourd'hui, ouais. Voilà. Voilà. C'est important, ça, par exemple, pour traverser la souffrance avec Jésus. On ne te demande pas de faire un plan te disant, voilà, une chimio sur 5 ans. On te demande vraiment de vivre aujourd'hui avec le Seigneur. Quoi. Tu verras demain quoi. Comment il sera présent avec toi.
Oui.
C'est très important ça. Sinon, on construit un monde imaginaire qui parasite l'accueil de l'Esprit-Saint. Voilà.
Frère Armand, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous allons voir, après cette pause musicale, comment Thérèse d'Avila décrit la vie spirituelle comme une descente. Nous écoutons « Dieu seul suffit » d'après un poème justement de cette grande Thérèse.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Dans cette cinquième étape de l'école d'oraison, nous nous demandons quelles sont les différentes étapes de la vie spirituelle. Nous sommes avec Frère Armand, carme du couvent de Toulouse. Vous nous avez montré, Frère Armand, les trois stades de la vie spirituelle, les débutants, les progressants et les parfaits. Nous avons bien compris que ces étapes ne sont pas tranchées. Elles évoluent dans l'espace et le temps. Et je vous propose, dans cette deuxième partie, de nous mettre à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. Elle nous guide sur le chemin de l'oraison. Alors, Thérèse d'Avila considère la vie spirituelle comme une descente, une progression vers l'intériorité. Paris. C'est l'image des sept demeures dans un château. Alors, je renvoie peut-être aussi les auditeurs à cette émission que nous avions fait avec le frère Benoît-Marie le 15 octobre sur le détail de ces différentes demeures. Mais on va regarder effectivement aujourd'hui le lien entre ces demeures et l'oraison. Pourquoi, tout d'abord, la Grande Thérèse compare l'âme à un château?
Alors, elle compare l'âme à un château parce qu'elle reprend l'évangile où il dit hein, il y a plusieurs demeures
dans la maison,
dans
de
la
mon
maison
père.
Du Père. Hein, donc, et puis, elle reprend, compare l'âme à un château parce que bah, c'est l'architecture espagnole avec les murailles de Castille qu'on connaît. Voilà. Maintenant, il faut bien voir que cette comparaison est fondée, elle prend aussi l'âme comme un cristal hein, qu'il faut polir. Donc, tout ce que j'ai dit dans la première partie, c'est la disposition de l'âme aux motions de l'esprit, c'est de quelle manière ce cristal va être assez poli pour refléter la lumière qu'il doit traverser, à travers elle. Ça veut dire que tout est en nous. Tout est en nous, on n'a rien à acquérir, mais on a tout à se dépouiller pour laisser Dieu, on peut dire, faire son œuvre en nous.
Et c'est justement l'objet de ces premières demeures, c'est d'accueillir notre propre faiblesse.
Alors, effectivement, si on prend les trois premières demeures, elles correspondent grosso modo, hein, à gros traits, au commençant et à l'expérience de Thérèse, de sa conversion. Il faut voir que Thérèse est religieuse depuis très longtemps, c'est une bonne religieuse, elle fait tout ce qu'il faut faire. Mais à un moment donné, elle a vraiment cette expérience que le Christ crucifié la regarde avec un regard extrêmement tendre et en même temps extrêmement insistant sur sa propre souffrance. Et elle dit, mais le Christ a souffert et s'est offert pour moi, pas pour mon voisin, pas pour le monde entier, mais pour moi. Il m'a aimé pour moi. Voilà. Donc elle fait expérience très forte, vraiment l'expérience de la conversion de Jésus a offert sa vie que pour moi. Il y a un autre auteur mystique qui dit « S'il n'y avait eu qu'une personne sur terre qui avait vécu sur cette terre, je me serais donné de la même manière. » Ouais, donc vous voyez, c'est très fort. Et donc elle fait cette expérience vraiment de l'amour du Christ crucifié, où sa passion n'est pas d'abord vécue dans le côté douloureux, mais dans le côté extrême de la charité, oui, extrême du don de soi.
D'un amour infini.
Je suis prêt à tout pour et pourquoi, en fait, pourquoi ? Pour te faire connaître mon mystère de communion avec le Père dans l'Esprit Saint. Parce que c'est ça le but du salut, vous voyez. Le but du salut, ce n'est pas d'abord ne plus avoir de péché. Hein, c'est que entrant dans cette communion infinie d'amour de Dieu, qu'est Dieu, bah de facto, l'âme ne s'occupe plus d'elle-même, donc de facto, elle ne pêche plus. Voyez. Mais le but, ce n'est pas d'être propre. Le but, c'est d'être en communion. D'accord. Donc, effectivement, les commençants, on pourrait dire, correspondent à ces trois premières demeures qui consistent effectivement à une connaissance régulière de leurs propres défauts, de leurs propres mauvaises tendances,
cette faiblesse,
à la structuration de la persévérance, d'une forme de volonté qui va se mettre en route. Hein,
Elle s'applique sur quoi, cette volonté, pardon de vous couper ?
Elle s'applique sur le fait que les choix de ma vie vont être ordonnés à faire plaisir à Jésus. Oui, c'est ça. Je vais poser ces actes, je vais faire plaisir à Jésus. Et donc, petite Thérèse nous dit, voilà, ben, je ramasse une aiguille pour un missionnaire. Je pose des petits actes discrets dans la journée qui n'ont pas pour but d'être publiés, mais d'être là pour faire plaisir à Jésus.
Voyez. Et donc, faire plaisir à Jésus, c'est à chaque fois dire, Seigneur, je t'offre ce petit acte dans le silence de son cœur. Voilà, ouais. Comme vous dites, personne n'en est témoin. Et puis, à chaque fois, le lier à une intention.
Il y a une intention, parce qu'à chaque fois que je pose un acte uniquement pour Dieu, en fait, sans m'en rendre compte, je confirme dans mon âme, à l'intérieur, que Dieu m'aime gratuitement moi-même. Que Dieu ne m'aime pas pour ce que je fais, pour ce que je réalise.
Pour mes mérites.
Ou même à cause de mes blessures. Parce que parfois, c'est ça. Il m'aime parce que je suis quelqu'un de cassé, donc voilà, il aime bien les pauvres. Non. Il m'aime pour moi-même. Il confirme le projet créateur, le projet rédempteur de mon existence. Vous voyez ? Donc, à chaque fois que moi, je pose un acte pour Jésus, en fait, je confirme cet amour gratuit de Dieu pour moi. Et donc, c'est extraordinaire, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est ça, les saints le vivent. Donc ça, c'est les commençants qui correspondent aux trois premières demeures, jusqu'au jeune homme riche, on pourrait dire, qui fait tout, hein, les commandements,
oui.
mais qui hésite à basculer dans,
ouais.
dans cet abandon réel. Quoi. Mmh.
Voilà. Pour terminer sur ces commençants, Thérèse d'Avila, elle dit bien que la troisième étape, c'est l'exercice des vertus, on y revient.
Oui, alors effectivement, ça correspond effectivement bien au... pour moi, en fait, les commençants, c'est vraiment jusqu'au troisième demeure qui correspond finalement à cette structuration. Elle parle bien dans le chemin de perfection, il faut commencer par les vertus. Voilà, donc une vie ordonnée, une vie articulée.
Avec des choix.
Voilà. Et donc, en fait, dans les demeures, clairement, cette partie-là n'est pas importante parce qu'elle est développée principalement en chemin de perfection. Et donc, on peut dire que l'élément le plus important, c'est d'abord les quatrième, cinquième demeure, qui correspond un peu à la deuxième étape, qui est vraiment, alors pour le coup, le recueillement. C'est-à-dire le fait que Dieu va unifier mon âme. C'est-à-dire que moi, j'ai des sens, j'ai cinq sens, donc l'ouïe, l'œil, le toucher, et ces sens ont tendance à nouveau à m'éclater dans différentes directions. Tandis que les sens intérieurs vont unifier l'âme autour d'un pôle, dans une certaine harmonie, un certain enrichissement, pour voir, on pourrait dire, Dieu, pas en 3D, mais en 5D. Quoi.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer la porte de ses sens ?
Non, parce que ce sont bien les mêmes sens qui, en fait, fonctionnent sous un autre mode. Par exemple, c'est tout bête, mais j'écoute quelqu'un me parler, je peux l'écouter au plan, on peut dire, matériel, corporel, mais la même parole peut résonner en mon âme en me disant « Dieu est en train de me dire ça à travers cette parole. » Oui, c'est propre des sacrements. Mmh. C'est que ça passe à travers une matière, mais Dieu passe à travers cette matière pour opérer le don de sa charité dans mon cœur. Vous voyez, donc ce sont les mêmes sens qui seulement ont, on pourrait dire, une résonance dans mon âme qu'ils n'ont pas si je me limite uniquement à leur réalité matérielle, corporelle.
Et quid du travail de l'intelligence et de l'imagination ?
Alors, c'est là que, en particulier, il y a d'abord une grande différence, hein, parce que l'imagination n'est pas l'entendement, ou n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est de percevoir avec son âme la vérité profonde des réalités. Hein. Alors, l'imagination, on peut dire, ce sont toutes les images qui sont des médias qui me permettent de mieux les représenter. Hein. Bon, très bien. Mais on peut très bien, du coup, dans la prière, et c'est quelque chose d'important, percevoir une vérité profonde que Dieu me communique, tout en ayant des images qui sont un peu loin de cette vérité. De sorte que Thérèse d'Avila dira très bien, dans le roseau de recueillement, qu'il peut y avoir des images qui passent dans ma vie, hein, on pourrait dire comme les affiches de nos publicités.
Ouais.
Voilà. Mais pour autant, mon œil est quand même surtout focalisé vers le but de la route, quoi.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc comme quand je prends l'autoroute, je vois des panneaux qui sont le long de l'autoroute, ben je les vois bien, mais ils ne sont pas du tout l'essentiel.
Ils ne vont pas polluer.
Donc ouais. Elle dit bien, n'essayez pas d'enlever les images de votre âme quand vous priez, parce que ça fait partie du paysage. Mais en revanche, on pourrait dire, avec nos mots modernes, prenez des distances par rapport à ces images pour essayer de laisser le Seigneur vous conduire vers la profondeur de son mystère, qui est un mystère de communion.
Comme la chenille est changée en papillon, l'âme est métamorphosée par l'action de Dieu en elle. Ce sont les cinquièmes demeures, là.
Alors oui, alors c'est la transformation intérieure dont je parlais. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe d'une compréhension où la vie spirituelle est à l'extérieur de moi à une compréhension où la résonance de la réalité dans mon âme est première.
Hein, alors,
ce qu'on appelle l'unification des sens,
ouais.
Parce que effectivement, ça résonne en moi, et on voit bien par Élisabeth, Thérèse de Lisieux, les grands saints. Ce qui compte, c'est la manière dont la parole de Dieu va résonner en eux, va vibrer, on pourrait dire, hein, comme les cordes d'une lyre, voyez. Et la vie spirituelle, c'est la vibration, c'est la mélodie de l'âme, voyez. C'est pas le fait qu'il y a la réalité extérieure uniquement. Elle est là, mais on peut dire c'est le support. Tandis que la résonance de la réalité extérieure ou objective dans mon âme, voilà la vie spirituelle. Mmh. Voilà, et on voit bien Jésus lui-même résonne toutes les réalités. Comment ? C'est extrêmement passionnant. Jésus n'a qu'une idée fixe dans sa vie. Manifester au monde sa relation de communion éternelle au Père. Et donc, quand il rencontre des gens, Évidemment qu'il a soif, qu'il a faim, qu'il a une vie sociale, évidemment qu'il a, il a la fatigue, etc. Il est humain comme nous.
Et qu'il est triste.
Mais
ou,
toutes
ou
ces situations sont occasion de, non seulement elles résonnent dans son cœur divin, parce que Jésus est homme pleinement, mais il est Dieu pleinement, il faut bien tenir ça, ça résonne dans son cœur divin, et il va nous manifester en permanence que la soif, la faim, la fatigue sont des lieux par lesquels sa relation de communion au Père sont manifestées, épiphanie. Vous voyez ? Et donc, de la même manière pour le Saint, lui, il va raisonner la manière dont Jésus en lui vit toutes les situations. Et donc, de fait, il va être beaucoup plus sensible à certaines vexations, certaines humiliations, mais il va les prendre, on pourrait dire, dans son cœur avec Jésus. Mmh. Donc, elles ont un sens, du coup, de fécondité dans le mystère de l'Église qui est autre. Vous voyez, c'est pas qu'il est plus détaché, qu'il devient insensible.
C'est propre de l'offrande, en fait.
C'est propre de l'offrande. Mmh. C'est-à-dire qu'on vit tout dans la résonance de la vie avec le Christ dans notre âme. Et c'est ça, la vie. Donc ça, c'est effectivement quatrième, cinquième demeure où, on pourrait dire, le Christ commence, on pourrait dire, à être l'élément d'unification du cœur, hein, qui n'a rien à voir avec les techniques de sagesse bouddhique, où on a une forme de maîtrise hein, sur notre âme. Pas du tout, hein. Voilà, parce que c'est vraiment Dieu qui prend. Et puis, dans la dernière phase, qui correspond au parfait, que Thérèse appelle le fiançailles et mariage spirituel, alors là, dans ces cas-là, on pourrait dire, l'âme, à poser tellement d'actes d'unification que le Christ peut vraiment devenir l'époux de l'âme. Mmh. Il peut vraiment devenir le maître de la maison. Il peut, quand quelqu'un vient dans ma vie, on pourrait dire, au même moment, c'est le Christ qui l'accueille aussi, hein, qui me voit le Père, dit Jésus. Hein. Et bien, de la même manière, le Saint, on pourrait dire, qui me voit Jésus. C'est ça qu'on peut espérer d'attendre d'un saint. Hein. Et donc, Thérèse, elle dit bien, et elle le vit effectivement dans des grâces très particulières, des grâces ecclésiales, des grâces sacramentelles, la grâce eucharistique.
Vous auriez un exemple à nous donner ?
Bah, par exemple, c'est très marrant parce que quand Jean de la Croix coupe l'hostie, vous savez, en deux au moelle de la communier, elle vit effectivement, elle dit « Ah, j'ai moins Jésus ». Et à ce moment-là, elle entre dans la grâce du mariage spirituel.
Ouais, vous
voyez. Donc l'Eucharistie devient effectivement l'élément constitutif de la structure de son âme à ce moment-là. Vous voyez. Elle rentre dans une forme d'union permanente avec le Seigneur, au point que du coup, ces défaillances humaines, affectives, psychologiques, vont être vécues avec encore plus d'intensité, et avec encore plus d'humiliation quand elles tombent, mais toujours avec une présence, on pourrait dire, de l'Esprit-Saint, encore plus intense, quoi. Mm-hmm. Voyez. Donc ça ne va pas du tout dire qu'elle devient une forme de top modèle moral, parce qu'elle garde son caractère bien trempé, pas toujours facile. Mais en revanche, voyez, elle a une conscience très haute de ce qui affecte la charité dans sa vie. Parce qu'elle avait moins avant, parce qu'elle était plus grossière, on peut dire.
C'est ça. Voilà. Et vous avez parlé, frère Armand, de la parole de Dieu. Là, ça peut être aussi difficile de voir comment, dans chaque texte, ou même dans la lecture de la parole du jour, enfin de l'évangile du jour, comment Dieu parle à chacun.
Alors, Dieu parle à chacun. Alors, parole du jour, parole de l'évangile, parole des psaumes. Hein. La prière, c'est vraiment des psaumes d'abord. Et c'est intéressant de voir que dans les saints, il y a toujours une parole qu'ils retiennent davantage. Quoi. Ils se disent, c'est pour moi que ça a été dit aujourd'hui. Hein. C'est Antoine qui dit, voilà, rebâtis ma maison. Et il se dit, bah, c'est pour moi que ça a été dit aujourd'hui. Quoi. Voilà. Donc, on voit bien que parfois, les gens nous disent parfois, ah, qu'est-ce que c'était bien votre homélie, est-ce que vous pourriez nous la donner ? Mais non, madame, il ne faut pas qu'on vous la donne. Alors, en général, je la donne, hein, je suis très gentil, je la donne, je dis, allez voir sur le pupitre, vous cherchez mon texte. Mais le problème, c'est que, vous voyez, là, Dieu est passé à travers cette grâce d'une parole donnée dans l'homélie, mais la retrouver en prenant le texte, c'est voir voilà, une forme de mainmise sur un don de Dieu. Parce que vous avez reçu une parole, la question, c'est qu'est-ce que vous en faites, et non pas comment vous vous accaparez de cette parole. Voyez. Et donc, il faut se dire, Dieu m'a parlé, la question maintenant, c'est comment je réponds à la parole qui m'était donnée. Ça a résonné, il y a eu un lien entre ma vie, ce qu'il a dit, et Dieu, là. Voyez. Mais la question, c'est maintenant, comment je réponds ? Et non pas comment je vais essayer de mieux comprendre ce qui a été dit, pour mieux m'approprier, pour être toujours plus propriétaire de... Non. Il faut laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre cœur. Mmh. Voyez.
Dans l'étape des sixièmes demeures, il y a des épreuves, mais il y a aussi des faveurs. Est-ce que vous pourriez nous
alors,
Thérèse donner
quelques
vit, exemples ?
Explicite, le sixième demeure sont le centre du livre des demeures. Hein, ouais. C'est la moitié du livre.
Oui, c'est ça.
Okay. Et donc, Thérèse développe comme personne d'autre, de manière extrêmement détaillée, les faveurs des sixièmes demeures, qu'elles soient vision imaginaire, vision intellectuelle, extase, y a beaucoup, beaucoup de faveurs. Et d'autres saints, comme Marianne de Jésus crucifié, la transverbération du cœur, vont les vivre après. Hein. Et c'est vrai qu'il faut bien voir ça comme une loupe. C'est-à-dire que Thérèse vit en effet très grossissant des choses que nous pouvons vivre de manière extrêmement minime, mais quand même réelle. Par exemple, l'extase. Prenons cet exemple. L'extase, très simplement, c'est l'âme qui sort d'elle-même pour accueillir Dieu en elle-même, dans un degré plus profond. Bon, ce sont des grâces, on pourrait dire, de déplacement, de détachement par rapport à soi pour accueillir Dieu réellement. Hein. On pourrait dire une forme de grâce d'oubli de soi, hein, pour que Dieu soit vraiment le maître de ma vie. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir une immense extase pendant une demi-heure, d'être. On a l'image de Thérèse un peu transverbérée qui était développée dans des statues multiples. Bon, Thérèse vit ça. Bon, elle vit en loupe, en effet grossissant, les grâces que nous pouvons vivre. Deuxièmement, ces grâces qu'elle a vécues sont un peu les nôtres. Parce que c'est propre de grâce charismatique que d'être pour l'Église comme un indicateur, comme une lumière pour nous. Donc elles sont pas, Thérèse n'est pas propriétaire de ces grâces. Mais le génie de Thérèse n'a pas été de vivre ces grâces. Le génie de Thérèse, et ça c'est le propre après de la vie spirituelle un peu développée, c'était de comprendre ces grâces et de les savoir les communiquer. Parce que beaucoup de gens vivent des réelles rencontres avec le Seigneur, mais ils ont beaucoup de mal à les comprendre et encore plus à les communiquer. Parce que si on vit une grâce très intime avec le Seigneur, on se dit qu'on est en train de dévoiler notre intimité à quelqu'un, on n'a pas très envie. Or, c'est un génie de Thérèse et ensuite de Thérèse de Lisieux que de savoir dire avec une certaine universalité une grâce qui est quand même personnelle. Et ça, c'était le génie de Thérèse. Alors, de fait, Thérèse nous dit vraiment, l'extase, et ça, Benoît XVI reprend, par exemple, Deus Caritas Est, effectivement, le propre de l'amour, c'est de sortir de soi. C'est le contraire du sentimentalisme, hein, qui consiste à se nourrir de sentiments en permanence, d'émotions. Non, pas du tout. Voyez. Et donc, ça, c'est très important parce que le propre de l'amour, c'est de s'oublier, c'est de se donner et c'est pas de se rechercher soi-même en l'autre. Voyez, de ne pas chercher les effets qu'on veut pour soi dans l'autre.
Bien sûr. Oui. Dans les septièmes demeures, il y a vous l'avez évoqué, frère Armand, c'est de découvrir l'ampleur et la profondeur de son âme et avec peut-être ce tiraillement de s'occuper moins de soi-même mais plutôt des autres.
Alors, c'est pas les autres. Avant tout, c'est vraiment beaucoup plus profond. C'est le fait que l'Esprit Saint devient... Jean Lacroix prendra cette image, premier agent de mon âme.
L'autre très bien.
Premier acteur de mon âme. C'est-à-dire qu'en gros, au septième demeure, le saint n'est mu que par l'émotion de l'Esprit Saint. Entre guillemets, il se lève le matin et c'est comme s'il disait maintenant je fais quoi. Et puis il lui dit fais ça, fais ci, fais ça. Et donc de fait, Thérèse prend l'exemple de Marthe et Marie parce qu'elles sont l'exemple un peu complémentaire de ce service, on pourrait dire, de l'évangile continu. Et donc, de fait, et donc, la personne peut être vraiment mue dans des activités nombreuses, et pour autant, elle a une disponibilité intérieure qui font que l'émotion de l'Esprit Saint ont de l'espace dans son cœur pour se réaliser. D'où Marthe et Marie, vous voyez, je fais beaucoup de choses, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma paroisse, et en même temps, en fait, ce ne sont pas ces activités qui mobilisent toute mon intériorité. Elles sont
Mais je reste disponible.
Je reste disponible, de sorte que l'émotion de l'Esprit Saint vont agir en moi. Et comme j'ai dit, j'accueille en permanence cette sursensibilité spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je vais beaucoup souffrir, dont je souffrirai moins, parce que j'accepte de ne pas tout le temps me protéger. Et en même temps, inversement, il y a des choses qui vont beaucoup me réjouir, alors qu'elles auraient été une joie comme ça, un peu temporelle, autrement.
Pour terminer, frère Armand, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour cette semaine, jusqu'à la prochaine étape de l'école d'oraison ?
Alors, je pense que si on est revenu sur un des points importants, c'est la question du temps. Le rapport au temps. Il suffit de voyager un peu pour voir que, quand même, en Occident, on a un rapport au temps extrêmement pressé, hein, extrêmement comptable aussi, extrêmement utilitariste. Et de fait, dans des pays, on pourrait dire, moins consommateurs, au moins, voilà, ils ont un rapport au temps que, quand même, qui est plus libre. Donc, je pense que, il faudrait voir de quelle manière ma prière est liée à ma vie liturgique. Et donc, typiquement, hein, bêtement, voilà, je reviens pour être très concret. De quelle manière je fais un peu oraison, par exemple, pendant la messe? Je vais à la messe dominicale. Mmh. Est-ce que c'est juste un acte que je fais comme ça? J'y vais, je communie, je m'en vais, et puis après je parle avec des gens sur le parvis de l'église. Voilà. Non, peut-être arriver un petit peu avant, par exemple, pour poser 5 minutes, 10 minutes d'oraison pour vraiment vivre l'aujourd'hui de Dieu dans la messe. Vous voyez, ça serait vraiment bien.
D'accord.
Et de sorte que la vie liturgique, la vie sacramentelle, la vie ecclésiale deviennent un élément important, pour ne pas dire structurant, de la vie de prière.
Merci beaucoup, frère Armand. Vous étiez aujourd'hui l'invité de Radio Présence pour cette 5e étape de l'école d'oraison. Vous avez présenté les différentes étapes de la vie spirituelle. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Présence la semaine prochaine pour la 6e étape.